Merci à la direction de l'école, Monsieur Jacques Samaru, merci au corps professoral, merci plus particulièrement au professeur de biologie, Johan Negrutio, qui m'a sollicité et qui a conduit cette sollicitation jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai appelé cette conférence, je ne sais pas si elle a été affichée comme telle, « Happy Birthday Charles Darwin », parce que comme vous l'avez entendu, ici, on doit parler aussi bien anglais que français. D'ailleurs, je suis venu faire un master avec Michel Brunet, et curieusement, on l'a fait en anglais. C'était assez drôle, mais c'était sympathique. Donc, bon anniversaire, Monsieur Darwin, Charles Darwin. Charles, hein, c'est un confrère. Et nous célébrons en effet cette année, comme vous savez, et toute l'année, le 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin, et le 150e anniversaire, en même temps, de la sortie de son ouvrage fondateur, « The Origin of Species by Means of Natural Selection ». Les espèces descendent les unes des autres par modifications adaptatives sélectionnées et transmises. Charles Darwin était un homme incontestablement brillant. Pardonnez-moi de le juger, mais en France, vous savez, il y a quelquefois un petit peu de gêne, de doute. J'ai entendu des gens même qui l'appelaient Darwin, ce qui n'est pas très gentil. Hein. On sent un petit peu de critique derrière tout ça. C'est un esprit scientifique, incontestable, formé à la déduction. C'est un esprit de synthèse, un esprit superbe de synthèse à la réflexion puissante. Épris de sciences naturelles, ce qu'on appelait sciences naturelles autrefois, c'est-à-dire zoologie, botanique, géologie, en fait tout ça. Il a été très proche de Lyell, Charles Lyell. Observateur attentif, précis et patient, aimant comprendre, comme on vous l'a dit ici, pour cette école, comprendre et expliquer du même coup. Et comme vous le savez bien, les grandes réflexions sortent évidemment rarement du néant, il se trouve que Charles Darwin a su lire, et il ne s'en est pas caché, ses grands prédécesseurs, et parmi ses prédécesseurs, son propre grand-père, Erasmus Darwin, qui avait pressenti le principe de la transformation des espèces. C'est quand même extraordinaire, hein, c'était en 1796, dans un ouvrage appelé « Zoonomia », que je ne connais pas en fait. Et, enfin, je connais bien Erasmus de nom, mais je ne connais pas « Zoonomia ». Par contre, je connais bien Jean-Baptiste Lamarck, qui avait fait du transformisme une théorie déjà bien construite, même si elle n'avait pas été bien comprise, bien construite, mais pas bien comprise. Et Charles Darwin a su aussi entretenir avec un jeune collègue, 14 ans plus jeune que lui, Alfred Russel Wallace, de fructueux échanges sur cette même grande idée. Wallace était aussi convaincu de la descendance modifiée par sélection naturelle. Mais comme toujours chez les naturalistes, il a aussi fallu à Charles Darwin un terrain, on peut appeler ça comme ça, un terrain. Et ce terrain a été à la mesure de l'homme, il a eu de la chance, hein, puisque ce terrain a consisté en un tour du monde sur un joli bateau, vous savez bien, il s'appelle le Beagle, et j'ai appris que le Beagle, ça voulait dire le fouineur, je trouve ça formidable pour un chercheur, j'ai embarqué sur le fouineur, qui voyage qui a duré 5 années, et à ce moment-là, ce qu'on ne réalise peut-être pas très bien à chaque fois, Charles Darwin avait entre 22 et 27 ans, c'est formidable. C'est vraiment l'âge où on doit engranger. Donc je salue avec vous Charles Darwin. Ce grand ancien, je salue son travail. Il a beaucoup publié, sa ténacité, sa solidité aussi. Lorsqu'il avait acquis une conviction, il savait la défendre et la tenir. Et à nouveau, son élégance de la maîtrise de la logique, la maîtrise de la déduction. En science, la déduction, c'est la séduction. Hein. C'est vraiment comme ça que ça se présente, en tout cas, dans mon esprit. Frappé depuis toujours par la sélection artificielle, quand même c'est de là qu'il est parti, que pratiquent les hommes lorsqu'ils domestiquent une espèce animale, Darwin parviendra à l'idée que la nature ne fait rien d'autre, même si elle le fait en y mettant beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, ce transformisme que l'on nomme évolution est un fait, ce n'est plus une théorie. Alors on imagine évidemment que la science n'est pas restée figée devant ces propositions de 1859, même si elles ont été reprises et complétées 5 fois par l'auteur. La dernière édition de ce livre, c'est 1872. La découverte des lois de l'hérédité, que vous connaissez bien, puis celle des gènes, puis celle de la molécule, plus récemment le décryptage du génome, l'élaboration de la théorie synthétique de l'évolution, qui pensait avoir tout compris, l'élaboration du néo-darwinisme, et avec le renouveau de la synthèse évo-défaut, que la biologie du développement que vous pratiquez ici, évo-défaut, je dirais le labo qui s'appelle comme ça ici, je crois, ont fait profondément évoluer, c'est le cas de le dire, la compréhension du transformisme, la compréhension qui est de moins en moins simple. À la logique sélective vient de s'ajouter une génétique probabiliste, et même une phylogénie moléculaire qui est parfois différente de la phylogénie classique. La fluidité, on appelle ça comme ça, moi je dirais les caprices du génome, inquiétant parfois, font que son expression phénotypique n'est pas toujours le fruit d'un déterminisme sélectif. À l'environnement, il convient donc d'ajouter les contraintes internes, et on s'est ainsi aperçu que l'organisme n'avait pas du tout la passivité qu'on lui prêtait. Autrement dit, c'est toujours la même chose, toujours plus compliqué qu'on imagine. On s'est même aperçu, qui plus est, qu'à la transmission, ça me tracasse pas beaucoup, hein. On s'est même aperçu, qui plus est, qu'à la transmission verticale, hein, c'était bien quand on avait celle-là, qui nous paraissait confortablement exclusive, il fallait désormais ajouter, on l'a entendu d'ailleurs dans une des présentations, parfois des transferts horizontaux. Il y a des virus qui troublent quelque peu les notions de systématique et par suite de filiation. Il n'empêche que 150 ans après l'origine of species, la sélection naturelle demeure, ce que l'on considère en tout cas, comme le moteur de la transformation du vivant et par suite le moteur de son histoire. Donc bravo Charles Darwin et merci. Alors où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, on en est à considérer l'homme, puisque c'est de l'homme dont il va s'agir ce matin, comme un eucaryote, un métazoaire, un chordé, un vertébré, un iatostome, un sarcoptérygien, un tétrapode, un amniote, suivez, un synapside, un mammifère, un primate, un apleurinien, un simiforme, un catarinien, un hominoïdé, un hominidé, un homininé, et même un hominini, pourquoi pas. Succession d'appartenance en partie gigogne, mais bel et bien ascendante dans le temps et dans la complexité. Et les hominidés, dont le berceau se situerait aux alentours de 10 millions d'années en Afrique tropicale, recouvriraient donc, avec leur ancêtre commun, tous les membres de deux sous-familles, les paninés, c'est-à-dire les chimpanzés, et les hominés, c'est-à-dire les hommes. Alors évidemment, les pré-chimpanzés et les chimpanzés, les pré-humains et les humains. Pendant, donc, premièrement, les hominés, on laisse les grands singes parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, les hominés. Alors là, je vais vous raconter une petite, un peu d'histoire et puis aussi un peu de ma vie. Pendant 20 ans, pendant les années 40 et 50, le plus vieil homininé, on disait à ce moment-là hominidé, mais peu importe, le plus vieil homininé, le plus vieil ancêtre de proximité, si on peut dire, c'était Oreopithecus bamboli. Oreopithecus bamboli avait été découvert il y a longtemps, en 1872, je crois, mais son étude avait été reprise par un chercheur de Bâle qui s'appelait Johannes Hürtler. Et cet Oreopithecus vient des lignites de Toscane. Et Hürtler a eu l'idée intelligente de retourner sur le terrain. Et donc de retourner sur le terrain, et une mine qui se trouvait à Bacinello a été rouverte. Et Hürtler a découvert des éléments nouveaux de cet Oreopithecus. Et il a surtout trouvé, je crois que c'était en 58, dans le toit, deux petites vertèbres qui avaient l'air d'être des vertèbres de primates. Et il a découpé un grand morceau de lignite du plafond de la mine de Bacinello, et il a envoyé ça au musée de Bâle. Et il se trouve que moi, j'étais tout jeune chercheur. J'étais entré au CNRS en 56, vous rendez compte? C'est la préhistoire, ça, pour vous. Et Hürtler a appelé Pifto, qui était à ce moment-là à la Sorbonne, en lui disant: vous n'auriez pas des étudiants pour venir me seconder, m'aider, etc. Donc je suis parti. Et je suis arrivé à Bâle devant cette grande plaque de lignite. C'est formidable, hein, vous savez, sur le plan historique, parce que j'ai vécu la sortie du squelette complet, c'est le seul que l'on connaisse actuellement, de cet Oreopithèque. Donc on a gratté la lignite, et puis on a sorti petit à petit les autres vertèbres, et puis les vertèbres cervicales, et puis on est arrivé à la tête, et le crâne était là, donc on a dégagé le crâne, et puis petit à petit le crâne apparaissait, et Hürtler était... inquiet, anxieux, mais heureux. Et puis on a dégagé l'arrière du crâne, puis le crâne qui était assez globuleux, petit à petit la face, et le profil était bon, le profil n'était pas trop prognate, et le nez ne sortait pas du profil. Donc tout allait dans le sens des hominidés, en quelque sorte. Et ce soir-là, Hürtler, vous reconnaîtrez, surtout, messieurs, mesdames, les professeurs et les directeurs, l'esprit scientifique, souvent dans la compétition. Donc, ce soir-là, quand on a eu dégagé le crâne, on n'était pas nombreux, hein, il y avait Hürtler, son assistant et moi. Et donc, Hürtler a fermé la porte à clé et a ouvert un grand armoire. Et dans cette armoire, il y avait du Chianti de Bacinello, de Grosseto. Et donc on a arrosé le crâne de l'Oreopithèque au Chianti de Grosseto. Et il avait fermé la clé tout simplement parce qu'il était en compétition avec un autre prof, voilà, de Basel, du Naturhistorisches Museum de Baselstadt. Et puis on a continué le dégagement, et ça a été affreux. Parce que ensuite on a trouvé la scapula, et on a trouvé l'humérus, et on grattait, c'était l'humérus, et puis le jour d'après on continuait à gratter, c'était encore l'humérus, et puis on continuait à gratter, le membre supérieur de l'Oreopithèque était un membre qui n'en finissait pas, tout simplement parce que l'Oreopithèque était un braquateur, quoi. Donc tout l'amour qu'avait Hürtler pour ce fossile s'écroulait, parce que Oreopithecus se montrait comme un petit peu proche des hominidés, c'est vrai, mais pas tout à fait avec les bras dont il disposait, quoi. Enfin, la longueur du bras a été une catastrophe, et on a pu revu le Chianti et autres. Donc ça, c'était année 40. C'est amusant parce que ça dure toujours, c'est pas vrai. Mais une petite vingtaine d'années, c'était en tout cas l'ordre d'idées. Et ensuite, eh bien, ça mène donc aux années 60. Et les années 60, ce sont les grandes découvertes en Afrique orientale, le début des grandes découvertes en Afrique orientale, le début d'ailleurs de leur datation. Et à ce moment-là, un Américain et un Anglais, en fait, mais tous les deux en Amérique, l'un s'appelait Edwin Simons et l'autre s'appelait David Pilbeam, remettent à l'honneur de nouveau d'autres fossiles, et qui sont restés encore 20 ans comme les plus anciens hominidés. Et ces fossiles, c'était Sivapithecus, qui avait été trouvé en Asie, et Ramapithecus, qui était considéré à ce moment-là comme une autre forme, donc Ramapithecus, Sivapithecus, et Kenyapithecus en Afrique orientale. On estimait qu'ils étaient peut-être un petit peu différents, peut-être un peu comparables, peut-être même synonymes, en tout cas c'était ce paquet Ramapithecus, Sivapithecus, Kenyapithecus, qui prenait la place en quelque sorte d'Oreopithecus. Le pauvre Wurzeler était désespéré, et c'est amusant, hein, parce que c'est... Vous savez que la recherche, c'est une passion. Et Wurzeler, ça a été presque une histoire d'amour ratée, et il avait plein d'espoir, plein d'idées, plein d'idées sur son avenir, et ensuite, il ne s'est plus rien passé, quoi. Il est mort de tristesse. Non, j'exagère. Donc, on en est à Pilbeam et Simons. Et donc, à ce moment-là, comme le Kenyapithèque a autour de 15 millions d'années, l'Oreopithèque avait autour de 12, mais depuis, ça a été ramené à 7 ou 8 millions d'années. Donc, l'Oreopithèque, au revoir, on arrive au Ramapithèque et Kenyapithèque. Et là, c'est 15 millions d'années avec un berceau de l'humanité qui est largement afro-asiatique. C'était l'Asie et l'Afrique tropicale qui étaient le berceau. Et on y a cru beaucoup. Et tous les discours à ce moment-là, toutes les conférences, me rappellent que Pifto lui-même, qui pourtant n'était pas très partisan d'une origine tropicale et afro-asiatique, il avait tellement cru en l'origine européenne, il était content que ce soit Oreopithecus. Donc même Pifto à la Sorbonne s'y était rallié à ce Ramapithecus. Et on en était là lorsque, en 1982, il se trouve qu'une académie, et pas n'importe laquelle, moi je ne savais même pas qu'elle existait, l'Académie pontificale des sciences, le Vatican nous conviait pour parler d'origine de l'homme, quand même, c'est quelque chose. Et donc, on y va, un certain nombre d'entre nous, c'était à la fois, c'était bien, c'était un peu une confrontation entre généticiens et paléontologues. Et durant cette conférence, deux drames. D'une part, un Américain de Californie qui s'appelait Gerald Lovenstein nous raconte qu'on lui a prêté des dents de Ramapithecus, hein, qui était considéré à ce moment-là comme le plus ancien des hominidés. Il en avait fait de la poudre, vous voyez, c'est l'information, hein. Il ne faut jamais prêter quoi que ce soit à un biochimiste. Il avait fait de la poudre, il avait injecté ça à un lapin, pour avoir des idées curieuses quand même. Et le lapin, enfin, c'était un Ramapithèque de, je sais pas, peut-être une petite dizaine de millions d'années. Et le lapin avait fait des anticorps. Donc les anticorps, il les avait récupérés, il avait testé vis-à-vis d'antigènes, d'antigènes de chimpanzés, mais humains aussi, hommes, chimpanzés, gorilles, orang-outans. Et la meilleure réponse avait été avec les orang-outans. Donc première déconvenue. Et d'autre part, deuxième histoire, durant le même colloque, David Pilbeam, lui-même, donc un des acteurs, si je puis dire, un des auteurs de ces Ramapithèques, sort de sa poche ou de son sac la première face de Sivapithèque jamais découverte. Et Sivapithèque, Ramapithèque, on s'est aperçu que c'était mâle et femelle, et donc c'est devenu le même genre. Et la face en question était tellement ressemblante à celle d'un orang-outan que finalement Pilbeam abandonnait le siège de plus vieille hominidée pour considérer que son Ramapithecus, Sivapithecus réunis était à l'origine de l'orang-outan, de Pongo. Donc, aussi bien la biochimie que la paléontologie abandonnaient en quelque sorte ce titre de plus vieille hominidé pour Ramapithecus. Alors, moi j'étais à ce colloque, je traitais d'ailleurs des plus vieux hominidés, et le soir même, je vous garantis que c'est vrai, c'est écrit dans les comptes rendus. Le soir même, j'ouvre un livre, un bouquin, pour voir un peu la carte de l'Afrique, parce que finalement, on était rentré là-dedans avec en tête 15 millions d'années berceau afro-asiatique, et tout d'un coup, on nous réduisait à l'Afrique, et on nous réduisait à la moitié, à 7 à 8 millions d'années. Il fallait réfléchir en ces termes-là. Et la carte, enfin n'importe qui d'entre vous aurait eu la même réaction, la carte montrait clairement que on n'avait jamais pensé à ça auparavant et pour cause, que d'un côté il y avait les paninés, les cousins, chimpanzés, et il y avait de la forêt, et de l'autre côté il y avait tous les plus anciens hominidés qu'on venait de recueillir et qui étaient bel et bien là de l'autre bord de quoi ? D'un superbe grand accident qu'on ne pouvait pas rater, qui était la Rift Valley. Or, j'avais lu des collègues comme Peter Andrews, qui avait travaillé sur ce qu'avait pu être l'Afrique au Miocène, et lui avait mis une grande forêt de l'océan Atlantique à l'océan Indien, et j'avais lu aussi des géologues, d'où l'intérêt de la transdisciplinarité, des géologues qui avaient dit que la Rift Valley avait une longue histoire, mais que le renouvellement, l'orogenèse de toute la muraille occidentale de la Rift Valley était apparue, c'était une mise en route seulement vers 8 millions d'années. 8 millions d'années. Quand même, c'était beaucoup de coïncidences. Alors, c'est tout ça. Le problème qui se posait, c'était quoi ? Les ancêtres communs, qui sont incontestablement des ancêtres des grands sages et des hommes, en l'occurrence des grands sages africains, en l'occurrence des paninés et des hommes, donc des préhumains et des humains, étaient là dans la forêt, et comme ils s'étaient séparés, on se demandait pourquoi, ils s'étaient séparés en paninés d'une part, adaptés à la forêt, et en hominidés d'autre part, adapté à la savane, la Rift Valley, qui avait son effondrement et son orogenèse à 8 millions d'années, venait juste au bon moment pour séparer la population en deux. Donc une population d'ensemble dans la forêt commune, et puis tout d'un coup, population séparée en deux populations, l'une se retrouve dans la forêt qui était déjà la niche écologique précédente, l'autre se retrouve dans une forêt qui petit à petit se découvre, et pour cause, parce que quand on a une montagne qui fait 700 km de long et plusieurs milliers de mètres de hauteur, ça gêne un peu les précipitations. Hein. Donc il était clair que toute l'Afrique orientale, petit à petit, ça séchait, et que de la forêt dense apparaissait une forêt beaucoup plus claire, puis une savane arborée, puis une savane herbacée, finalement une steppe. Donc c'était tellement simple que j'ai bien senti que ça ne durerait pas, mais quand même, j'ai proposé ça le lendemain. J'ai dit, ben voilà, on est réduit à l'Afrique il y a 8 millions d'années, et bien les ancêtres communs sont là dans la forêt, d'un océan à l'autre, puis la Rift casse tout et sépare les populations en deux. C'est de la cladogénèse par excellence, hein. Et du même coup, les paninés continuent leur histoire à l'ouest, et puis les hominidés prennent en table leur histoire à l'est. C'est joli, hein. Et j'ai appelé ça l'East Side Story. Mais voilà, merci, j'apprécie. J'ai un ami et un collègue, il faut dire dans l'autre sens, un collègue et ami intelligent, qui a eu la bonne réaction. Il s'appelle Michel Brunet, et il est parti en 84, voyez comme il faut être tenace aussi en science. Et Michel Brunet est parti en 1984, en venant me voir d'ailleurs, en disant voilà, je vais aller tester ton hypothèse, je m'en vais à l'Ouest. Bon. Et il a eu aussi l'appui de Pete Beam, il a gardé d'ailleurs ses deux amitiés, bien sûr. Et il a travaillé longtemps au Cameroun, et je vous dis ça, c'est de la parenthèse, mais c'est quand même un peu de l'histoire aussi de la science, quoi. Alors, il m'envoyait des télégrammes, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Et il me disait, j'ai trouvé des choses extraordinaires, j'ai trouvé des mammifères du Crétacé sont les plus vieux d'Afrique. Alors je disais, trop vieux. Et il me renvoyait à d'autres câbles en disant, j'ai trouvé des bifaces, c'est tout à fait extraordinaire, il y a un achelien magnifique, il est trop jeune. Donc, il a travaillé beaucoup au Cameroun, puis après il est monté, il est arrivé au Niger, et puis un petit peu au Nigeria, et puis ensuite au Tchad, et moi j'avais travaillé au Tchad pendant des années, pendant 7 ans, donc sur mes pas, et puis il a commencé en 94, donc 10 ans après, 94, à trouver le premier Australopithèque, Australopithecus Barenkazali, et puis en 2001, catastrophe pour moi, il a trouvé Toumaï. Le premier a été appelé Abel, hein, et le deuxième a été appelé Toumaï. C'est Sahelanthropus tchadensis, qui est un hominidé, je le crois vraiment, et qui a 7 millions d'années. Voilà, 2500 km à l'ouest, la liste Science Story s'est effondrée, et il va falloir y penser d'une autre manière. Alors, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, hein. Parce que la rift, c'est une réalité. On ne peut pas avoir un grand trou comme ça et puis un chapelet de bassin, un chapelet de lac, et puis une grande muraille aussi élevée, sans que c'est un rôle évidemment dans la distribution des faunes. Mais en fait, la rift a dû fonctionner. C'est, encore une fois, c'est bien plus compliqué qu'on imaginait, enfin que j'imaginais. La rift a dû fonctionner quelquefois comme une vraie muraille. Il y a des groupes zoologiques qui ne passent pas, d'autres fois comme un filtre. Il y en a qui sont passés et d'autres qui ne sont pas passés, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Et d'autres fois comme une passoire, une vraie passoire. Donc en l'occurrence, j'ai abandonné l'ISA History. Moi je veux rendre hommage à Michel Brunet, hein. D'autant plus que Michel Brunet, avec qui je suis venu ici d'ailleurs, pour ce fameux master, a eu l'élégance, retenez ça aussi, c'est bien, c'est important quand ça existe, de nous faire signer tous les deux, Pilbim et moi-même, aussi bien Abel que Toumaï. Donc on est aussi co-papa de ces deux catastrophes. Quoi. Donc, voilà en ce qui concerne cette hypothèse, qui était belle, mais qui a disparu. Donc, où en est-on ? Eh bien, l'ancêtre commun du clade, hein, hominidé, comme je vous l'ai dit, est donc bel et bien tropical et africain. Il a donc bien de 7 à 10 millions d'années. On dit 10 parce que c'est un chiffre rond, c'est peut-être un peu moins. Le Toumaï de Brunet doit pas être trop loin de cette grande division. C'est donc bien de lui, de ses ancêtres communs, que descendent les palmiers, brachiateurs, majoritairement frugivores, à l'adaptation à la forêt et à la savane arborée, et knuckle walking, vous savez, qui marche comme ça sur les phalanges des articulations des doigts. Et c'est donc bien de lui, cet ancêtre commun, que descendent les homininés. Debout, bipède et arboricole d'abord, bipède exclusif ensuite. C'est intéressant ça aussi. Majoritairement végétarien, consommateur de fruits en l'air et de tubercules à terre, à l'adaptation à la savane arborée et à la savane claire. Alors on a eu beau apercevoir des orang-outans debout, ce n'est pas pour autant que leur anatomie a suivi, et on a eu beau trouver Sahelanthropus, Rorin, Ardipithecus en milieu dit couvert, disons qu'il l'était en tout cas moins que celui des cousins paninés. Et qui plus est, cette adoption de la bipédie, En milieu, je crois, plus découvert. Quoi. Autrement, on ne comprend pas bien pourquoi cette sélection s'est faite. En tout cas, cette adoption de la bipédie permanente, qui est extrêmement facile à lire sur le bassin. Les bassins sont larges et un peu en pression, un peu écrasés. Le bassin de Lucie, par exemple, a dû être une urgence, car elle est finalement très bricolée. C'est souvent le cas de l'évolution. L'utérus conserve, par exemple, la même orientation que chez les quadrupèdes. Enfin, si vous saviez ça, mais ça doit vous faire quelque chose. Il fait un angle de 90 degrés avec le vagin. Et notre pression veineuse, hein, c'est moi qui en sais quelque chose, est deux fois supérieure à celle des quadrupèdes. D'où, avec la baisse du tonus vasculaire, les varices, les hémorroïdes, le problème pour monter le sang des pieds à la tête, quelle histoire quand on prend un certain âge. Vous vous rendez compte que j'ai dépassé l'âge de la mort de Darwin. C'est pour ça que mon présentateur méchamment a dit honoraire. J'ai horreur de ça, professeur honoraire. Professeur d'honneur au moins, c'est quelque chose, mais honoraire, quel mot épouvantable. Quant à nos courbures rachidiennes, autrement dit les courbures du rachis, qui sont tout à fait spécifiques, hein, de la station de Boue, ça va de soi, elles sont déjà présentes d'ailleurs chez Lucie, un petit peu plus étirées, un petit peu plus allongées, mais elles sont présentes chez Lucie. Eh bien, nos courbures rachidiennes, vous le savez bien, ou si vous ne le savez pas, vous le saurez, ça entraîne les névralgies, les sciatiques, les lordoses, les syphoses, les hernies discales, les spondylarthroses, les coxarthroses, les cervicarthroses. Bon, j'arrête parce qu'on va tous pleurer. La croissance différentielle des éléments du pelvis en est peut-être la cause. Autrement dit, il y a peut-être à l'origine de cette histoire évolutive des hétérochronies. Les hétérochronies, ça veut dire que tous les éléments ne poussent pas, n'ont pas une croissance à même vitesse. Donc ça fait des différences qui sont importantes et qui, quelquefois, sont bel et bien transmises. Et en ce qui concerne le bassin des homininés, c'est peut-être la raison. Ces hétérochronies ont été reprises il n'y a pas longtemps, surtout par Gould. Et en fait, c'est une histoire très ancienne. Enfin, je veux dire quand même, bien sûr que c'est très ancien, mais elles ont été décrites, hein, il y a très longtemps par Ernst Haeckel, donc dès la fin du 19e. Donc on peut diviser les homininés, on est bien d'accord, en préhumains et humains. C'est pas très orthodoxe, mais c'est commode. Les préhumains, joliment illustrés par 7 genres et 14 espèces, vous en entendez parler souvent, sont découverts dans toute l'auréole de savane entourant le noyau équatorial de forêt, au Tchad, en partant du nord, au Tchad, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, en Afrique du Sud, et partagent donc entre 7 millions et 1 million d'années une station de boue permanente, une locomotion arboricole et bipède, je l'ai déjà dit d'abord, puis ensuite bipède exclusif, un cerveau en douce expansion, c'est pas merveilleux, mais douce expansion et douce complication, une face en douce réduction aussi, à des vitesses différentes suivant les phylums, des dents jugales, des dents de la joue prémolaire-molaire, soit en réduction, soit en augmentation de taille en fonction aussi des lignées, et un émail dentaire plutôt épais, puisque cet émail est lié à la consommation des racines et des tubercules caractéristiques de la sous-famille. Ces homininés, nés d'une ouverture du paysage il y a 7 à 10 millions d'années, et ont subi successivement un deuxième coup de sec il y a 4 millions d'années, c'est là l'émergence d'Australopithecus, et un troisième coup de sec dont je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure, le plus important, il y a 3 millions d'années. Et tous ces changements climatiques ont évidemment contraint les homininés à s'adapter pour survivre, notamment par la locomotion, mais aussi par le régime alimentaire. Donc leur histoire est celle d'une sélection naturelle, déterministe à terme, par excellence, réalisant des tendances évolutives dépendant de l'environnement. cette approche, comme beaucoup d'approches paléontologiques, hein, on n'a pas tellement le choix, et donc macro-évolutionniste. Donc numéro 2, l'homme. Ça y est, on quitte les pré-humains et on aborde les humains. Eh bien, entre 3 et 2 millions d'années, le changement climatique dont je viens de vous parler est tout à fait important. J'ai eu la chance de l'étudier 10 ans durant en Éthiopie, au bord de la basse vallée d'un fleuve qui s'appelle Homo, parti du marché. Vous vous rendez compte ? On va chercher l'homme H-O-M-O et on le trouve au bord d'un fleuve qui s'appelle Homo O-M-O. Et cette période de 2 à 3 millions d'années était dans cette région extraordinairement représentée. Imaginez un terrain sédimentaire se déposant dans une zone de rivières anciennes, de delta et de marigots lorsque le fleuve n'était pas assez important. Les dépôts se font, mais il y a ce qu'on appelle une subsidence, on emprunte ça aux géologues, c'est-à-dire que tout s'effondre. Et comme ça s'effondre, il y a un nouvel appel de sédimentation. Enfin, s'écroule encore, un nouvel appel de sédimentation, etc. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, moi j'avais devant le nez 1200 mètres de terrain entre 2 et 3 millions d'années. C'est quand même fantastique. Hein. C'est ça, faut être myope pour ne pas voir ce qui s'y passe. Et ces terrains en plus se sont déposés à peu près horizontalement, c'est-à-dire que normalement j'aurais dû avoir accès au dernier niveau. Mais la tranche tout entière a basculé. Elle a basculé, quelquefois à 45 degrés, quelquefois un peu moins, et cette bascule a été bien sûr travaillée par l'érosion. C'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui apparente en marche d'escalier. En marche d'escalier parce qu'il y a des couches volcaniques interstratifiées qui sont plus dures, plus endurées, et qui résistent donc plus à l'érosion. Donc les niveaux volcaniques font des marches, et puis les niveaux sédimentaires font les contre-marches, et ça monte comme ça de 3 à 2 millions d'années. Donc c'est exceptionnellement épais, c'est exceptionnellement exposé grâce au basculement des couches. C'est exceptionnellement fossilifère. En 10 ans, j'ai rapporté 50 tonnes d'os de ce pays. J'ai remarqué d'ailleurs que l'école normale n'avait pas encore de relation avec l'Afrique. À votre service pour y penser. Il y a de grands établissements, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. En Afrique du Sud, par exemple. Et exceptionnellement daté. Alors la datation, elle est biochronologique. Bien sûr qu'on date par les animaux que l'on découvre. Elle est aussi paléomagnétique. On a utilisé ces méthodes et ça a merveilleusement marché. Et elle est radiochronologique, c'est-à-dire que dans les niveaux volcaniques, il y avait du potassium radioactif qui se désintègre en argon, et la mesure potassium-argon a été très précieuse. Ça nous a fait un véritable étalonnage sur les 1200 mètres quand même, un kilomètre de c'est envahissant, vous voyez, on a grandi les choses, un kilomètre de d'épaisseur de terrain, j'avais 120 couches. Et donc 120 dates, quoi. Donc c'est un étalonnage super. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Eh bien on voit un climat qui change, qui en bas est très humide et qui en haut est très sec. Là, j'ai pris juste quelques exemples pour vous le démontrer. La flore, par exemple, est tout à fait intéressante à cet égard. Quand on récolte les pollens, ce qui a été fait par une collègue, norvégienne d'ailleurs à l'origine, qui s'appelle Raymond Bonnefille, quand on récolte les pollens et qu'on fait le rapport, l'indice du nombre de pollens d'arbres sur le nombre de pollens d'herbes, on a un chiffre de 0,4 à 3 millions d'années, de 0,01 à 2 millions d'années. C'est vous dire qu'il n'y a presque plus d'arbres et on se trouve dans un milieu très sec auquel toute la faune doit s'adapter. Quelques exemples de flore. Il y a une plante qui est très humide qui s'appelle Myrica. Eh bien, les pollens de cette plante à 3 millions d'années, c'est zéro, on n'en trouve pas. À 2 millions d'années, il y en a 20%. Une plante qui, au contraire, est très humide, c'est Celtis. La plante Celtis, on a 45% des pollens de cette plante à 3 millions d'années, zéro à 2 millions. J'ai pris un autre exemple, c'est celui des antilopes. Des antilopes de brousse, des antilopes de territoire humide, de brousse épaisse, ce sont par exemple les tragélaphes. Eh bien, les tragélaphes à 3 millions d'années, on en a 33%, à 2 millions d'années, on en a 9%. Et les ancélaphes qui sont au contraire des antilopes de prairie, donc il leur faut de l'espace pour galoper, on en a 3% à 3 millions d'années, 29% à 2 millions d'années. Donc c'est tout à fait clair et je pourrais multiplier les exemples. Or, on a aussi là-dedans, et c'est ça la merveille, les hominidés. Alors à 3 millions d'années, où on a la savane boisée, on a les australopithèques, on a un autre préhumain dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Kenyanthrope. Et à 2 millions d'années, eh bien, on s'aperçoit que les hominidés ont eu deux réponses utilisant probablement la sélection naturelle, deux réponses à ce changement climatique. La première réponse, c'est l'australopithèque dit robuste, qui a une adaptation qui est une sorte de dissuasion physique. Il est plus robuste parce que d'abord il a un corps plus massif. Et il faut ça dans un territoire découvert où on est plus exposé à la prédation. Et d'autre part, il a un équipement masticateur superbe pour mâcher des végétaux durs, fibreux et des fruits, mais à coque très dure. Et la deuxième réponse, c'est l'âme. L'âme, ni plus ni moins. J'ai beau le dire, je ne suis pas sûr d'être bien... Enfin, moi, ça me paraît énorme, enfin, c'est quand même important. L'homme apparaît comme une nécessité pour un préhumain de s'adapter à un changement climatique. C'est vraiment l'origine de l'homme. Et lui, il a une dissuasion intellectuelle, d'ailleurs ça se voit. Il a un plus gros cerveau, plus compliqué, plus plissé, mieux irrigué, enfin je pourrais vous détailler ça. Et il a aussi un nouvel équipement en masticateur, c'est-à-dire que lui, au lieu de manger des végétaux qui restent et de doubler la taille de ses dents jugales, il mange de tout, y compris de la viande. Il devient omnivore, c'est-à-dire qu'il devient aussi carnivore. Et j'ai fouillé des sites à Homo habilis, des sites des premiers hommes, et je vous assure que c'était très impressionnant de voir des sites de rassemblement, de campement, de voir l'opportunisme de ces gens qui mangeaient vraiment de tout, depuis le caméléon jusqu'à l'éléphant, quoi. Alors l'éléphant, c'est gros, c'est difficile à transporter, mais ils en rapportaient au moins des morceaux, et ça veut dire que la vie n'était pas facile. Donc voilà, l'homme né il y a un peu moins de 3 millions d'années, entre 2 et 3 millions d'années en Afrique tropicale. Et pourquoi? À cause de la nécessité de s'adapter à un changement climatique, subi, c'est ce que je vous ai dit, comme les autres mammifères de son écosystème. Et comment? Eh bien, en retenant par sélection naturelle, darwinienne par excellence, des dents pour un régime opportuniste élargi et un cerveau plus performant. Autrement dit, un stress climatique, réponse bricolée, encore une fois, et pas si mauvaise que ça, puisque on est encore là, aujourd'hui. Alors j'ai appelé cette hypothèse, celle-là, pas l'histoire historique, mais l'événement de l'homo, je trouvais ça drôle, homo event, alors je mets le H entre parenthèses, puisque c'est l'homme quand même, Et puis homo pour rappeler que c'est à l'homo que ça a été découvert. Alors, j'en suis très fier, et la preuve d'ailleurs, c'est que 10 ans après, quand même, ça a mis 10 ans à pénétrer la communauté scientifique, ça m'a été piqué de manière éhontée, c'est apparu comme ça sous d'autres noms ailleurs, mais ça prouve que celle-là était bonne, cette hypothèse-là était bonne. Et cette hypothèse a l'air en effet de tenir, et pour la première fois, donc, un être vivant taille la pierre, tape sur un caillou avec un autre de manière volontaire et délibérée pour obtenir la forme qu'il souhaite, correspondant à la fonction à laquelle il destine ce caillou. Autrement dit, il y a une sorte d'émergence de la conscience. Alors je sais bien que la définition de la conscience est compliquée, c'est pas si simple que cela, et ce n'est pas surprenant finalement, puisque c'est une transformation qui est plus quantitatif que qualitatif. Si c'est moi qui ai trouvé cette histoire-là, c'est tout simple. C'est parce que à ce moment-là, on était beaucoup d'équipes en Afrique orientale. Il y avait les vieux Liki, Louis et Meliki, qui fouillaient à Olduvai en Tanzanie. Mais Olduvai, les premiers niveaux commencent à 2 millions d'années, et donc sont plus jeunes. Je fouillais moi-même en Afar avec Johansson et Taïeb, mais en Afar, les niveaux sont plus vieux. Lucie a 3 millions 2, donc c'est en dessous de 3, donc plus jeune d'un côté et plus vieux de l'autre. Et Richard Lee, qui fouillait à l'est du lac Turkana, avait la même séquence avec une grande lacune stratigraphique juste entre 2 et 3 millions d'années. Donc, ce qu'il fallait, c'est avoir la tranche de 2 à 3 millions d'années, et il n'y avait qu'à l'homo qu'on pouvait en disposer. C'est pour ça que cette affaire m'est apparue de façon très, très claire. Alors, troisièmement, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous emmener jusqu'à 4 heures d'après-midi, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu. Troisièmement, j'ai appelé ça expansion de l'homme. Alors, l'homme, il est là. Mais l'homme, il est plus mobile parce qu'il chasse, hein, il s'est mis à manger de la viande. Il est plus curieux parce qu'il a une grosse tête. Il est mieux équipé parce que désormais, il taille le caillou. Il est démographiquement un petit peu plus important parce que, comme son adaptation a réussi, son effectif a grandi, sûrement pas beaucoup, mais un peu. Et il est sûrement poussé par l'environnement, parce qu'il y a d'autres bêtes qui, à ce moment-là, bougent. Et c'est-à-dire que dès le début, il est apparu à 2 millions 7 ou 8, dès 2 millions, peut-être 2 millions 5, je crois qu'il bouge. Il bouge, c'est-à-dire qu'il ne va pas... on dit qu'il sort d'Afrique. Non, il agrandit son territoire. Il ne quitte pas l'Afrique pour autant. Il agrandit son territoire. Et on le trouve très vite à 1,8 million en Afrique du Nord, on le trouve à 1,8 million dans le Caucase, on le trouve peut-être à plus de 2 millions d'années au Proche-Orient, on le trouve à autour d'1,5 million, 2 millions d'années peut-être en Europe, 1,5 million, 2 millions d'années peut-être en Extrême-Orient. Autrement dit, il s'installe sur l'ensemble de l'Ancien Monde. L'ensemble de l'Ancien Monde, c'est Afrique et Eurasie. Très vite, géologiquement parlant. Mais c'est pas ça qui est intéressant pour vous et pour nous aujourd'hui. C'est le fait que, comme il s'étend à travers l'Afrique et l'Eurasie, ça fait quand même un territoire énorme, même s'il ne va pas trop au nord parce qu'il n'est pas très acclimaté à ce genre de situation, mais ça fait quand même un énorme territoire pour un effectif qui ne devait pas être considérable. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Comme il se répand, il ne peut pas rester en contact partout. Donc, il y a une rupture du flux génique. Et s'il y a une rupture du flux génique, les petites populations qui se trouvent séparées les unes des autres vont petit à petit évoluer avec la dérive génétique que l'on connaît dans toutes les îles, par exemple. À chaque fois que l'on isole un être vivant, petit à petit, son pool génétique n'étant pas le même que celui qui reste sur le continent, et ayant la possibilité d'homozygosie plus facile, ces deux populations vont diverger. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est très intéressant, à partir d'un certain moment, l'homme s'étant répandu, on va le trouver Homo erectus en Afrique, et en Asie devenant assez vite Homo sapiens, on va le trouver Homo neanderthalensis en Europe, on va le trouver Homo soloensis à Java, on va le trouver Homo floresiensis à Flores, et on n'est pas au bout de nos découvertes. On va sûrement trouver d'autres isolats, d'autres petits groupes d'hommes qui auront évolué de manière différentielle dans différents endroits du monde. C'est plus que probable. Et je voulais vous parler du dernier découvert, parce que c'est drôle. C'est le fameux petit homme de Flores. Alors, depuis très longtemps, les paléontologues savent qu'un isolat, une île en particulier, mais l'île, ça peut être une vallée, ça peut être une forêt, ça peut être un bassin, ça peut être une mare. En tout cas, l'île, c'est par définition une diminution de surface, une diminution de nourriture, un appauvrissement de l'écosystème, une diminution de la prédation. Hein? Donc, sur une île, qu'est-ce qui va se passer? L'animal qui va, ou la plante, mais plus volontiers l'animal qui va arriver, va se trouver en petite population, avec plus de chances d'homozygosie, comme je vous l'ai dit, et avec une spéciation rapide. Pas besoin de dissuasion, puisqu'il y a moins de prédation. Et pour des raisons endocriniennes, alors, sûrement que ce sont des raisons endocriniennes, mais je ne sais pas si ça a été bien éclairci. En tout cas, par dérèglement hormonal, beaucoup de ces groupes zoologiques vont changer de taille. C'est drôle, ça, hein ? Changer de taille pour atteindre une sorte d'idéal énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un idéal énergétique ? Ça veut dire qu'on vit dans un écosystème où on doit tenir sa place, comme dans une société, vis-à-vis des autres membres de l'écosystème et vis-à-vis de la prédation qui ne cesse de s'exprimer naturellement. Et lorsque la prédation baisse, eh bien on s'aperçoit que la taille que l'on a n'est pas du tout l'idéal que l'on pouvait espérer. Autrement dit, il y a tout un tas de grosses bêtes qui vont diminuer leur taille et tout un tas de petites bêtes qui vont augmenter la leur. C'est drôle, hein ? Comme si c'était l'idéal comme ça. Alors, ceux qui baissent leur taille, ce sont les proboscidiens, les éléphants, les stégodontes, un certain nombre d'archéodactyles, un certain nombre de suidés, d'hippopotamidés, de cervidés, de boïdés, un certain nombre de xénarthes, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait les édentés, donc une famille des mégalonychidés, et un certain nombre de primates, on le savait pour les macaques, on ne savait pas pour les hommes, mais les hominidés aussi, il n'y a pas si longtemps, demeurent soumis à ces lois de la biologie. Alors j'ai retenu juste quelques exemples. Un éléphant qu'on appelle l'éléphant antique, Paleoloxodon anticus, sur le continent européen, par exemple, à 5 mètres de haut, 5 mètres de haut au garrot, et sur les îles, il arrive à n'atteindre que 90 cm. Comme vous le savez, il y a des éléphants sur toutes les îles de la Méditerranée, et à chaque fois des espèces différentes. C'est un peu comme les pinsons de Darwin, les pinsons des Galapagos. Il y a un petit éléphant en Sardaigne, il y en a un autre, ou plusieurs même en Sicile. Il y en a à Malte, il y en a en Crète, il y en a à Chypre, il y en a sur un certain nombre des îles de la Grèce. Enfin, c'est très impressionnant. Et c'est probablement, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ça, mais ce qui est un crâne d'éléphant, les orbites sont sur les côtés. Et devant, il y a évidemment un énorme trou qui est le trou correspondant à la trompe, à l'attache du nez, à l'attache de la trompe. Et comme ces squelettes d'éléphants se rencontrent volontiers sur toutes ces îles de la Méditerranée, c'est peut-être de là qu'est née l'idée du cyclope. C'est quand on voit ces crânes avec cette sorte d'énorme orbite qui n'en est pas une, mais au milieu de la figure, si j'ose dire, on peut penser que c'est la place d'un œil. Mais pas du tout, c'est la place de la trompe. Donc, voilà l'exemple de l'éléphant antique. Et j'ai pris l'exemple d'une antilope des Baléares qui s'appelle Myotragus, Balearicus, 50 cm de haut. Et puis un mégacéros, vous savez, les mégacéros sont des cerfs superbes avec d'énormes bois. Et il y a un pré-mégacéros en Crète qui fait 65 cm. Et récemment en Corse, près du Cap Corse, on a trouvé un site, c'est Eugène Bonifay qui l'a découvert. Et il y a aussi un mégacéros qui est tout petit. Puis il n'est pas unique, on pourrait penser à un cas pathologique. Il y a tout un tas d'exemplaires. Et au contraire, un certain nombre de petits grandissent, les rongeurs, les insectivores, mais aussi certains oiseaux. Il y a un rongeur des Antilles qui s'appelle Ampyrisa inondata et qui avait la taille d'un ours. Alors ça c'est impressionnant. Hein. Rongeur à la taille d'un ours. Je ne vous dis pas, il est mort, hein. il est fossile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Florès? Eh bien, des Australiens, il n'y a pas longtemps, fouillaient une grotte qui s'appelle Langbua, dans cette petite île qui a 300 km de long et 20 km de large, fouillaient cette île, et puis ont découvert un petit bonhomme, quoi. Un petit homme, et ce petit homme, c'est vraiment petit, il a un mètre de haut, et il a une capacité crânienne, c'est ça qui est impressionnant aussi, qui a été estimée à 380 cm3 de bord, et puis certains l'ont poussé à 530, et on en est à une moyenne de 400 et quelques cm3, mais 400 et quelques cm3, c'est un tout petit peu plus que Lucie, et évidemment le crâne, j'ai vu les moulages endocrâniens, c'est plus compliqué que les crânes des préhumains, mais enfin, c'est quand même impressionnant. On est loin de la théorie des rubicons, du rubicon cérébral, etc. Et ce petit bonhomme, eh bien, il a d'une part des traits archaïques, c'est-à-dire que pour moi, qui fréquente ces gens-là depuis longtemps, je veux dire les hommes fossiles, quand je l'ai vu, j'ai reconnu un Homo erectus. Il ressemblait beaucoup à l'homme de Java. Et finalement, c'est peut-être l'homme de Java qui est passé à Florès, et puis qui, dans son splendide isolement, a fait comme les autres, il a réduit sa taille. Donc il a à la fois des traits archaïques, autrement dit des traits de... c'est pas un homme moderne, quoi. Des traits de l'Homo sorensis de Java. Il a aussi des traces d'hétérochromie, il y a aussi des éléments dans son anatomie qui ont eu des vitesses de développement tout à fait différentes. L'ossification, par exemple, la torsion du tibia et de l'humérus. Et puis des traits insulaires qui sont partagés par tous les êtres des îles, c'est-à-dire des jambes courtes, des os épais et des membres robustes. Et ce bonhomme, il a dû passer à Florès vers 7 à 900 000 ans, vers 840 000 ans, il y a un changement de faune avec une baisse du niveau marin, il a peut-être profité de ça pour y arriver. Et ensuite, il s'y est développé, il a réduit sa taille, et là, il était entouré, et celui qui a été trouvé, là, à 18 000 ans, c'est-à-dire l'âge de Lascaux, c'est fantastique, et il a été trouvé associé à non seulement à des outils, mais aussi à du feu, c'est-à-dire qu'il avait une petite tête, mais il vivait très bien, merci pour lui. Donc voilà ce qui s'est passé, et puis un beau jour, il se trouve que c'est l'Homo sapiens, entre 50 000 et 100 000 ans, qui a repris la route, soit à partir de l'Afrique, c'est ce que pensent beaucoup d'auteurs, soit à partir de là où était Homo erectus, c'est ce que je pense plus volontiers. Et en tout cas, c'est peut-être un exemple de granulisme, de cette fois-là, non pas de cladogénèse, mais d'anagénèse, avec une action, une rétroaction sûrement de la culture. Et cet Homo sapiens va finir sa visite du monde et finalement effacer les autres espèces. C'est-à-dire, ici on l'appelle Cro-Magnon, il séjourne avec Néandertal et au bout de 10 000 ans quand même, Néandertal disparaît. Il arrive à Java, au bout d'un certain nombre de milliers d'années aussi, l'homme de Java, Homo sapiens disparaît. Et puis plus tard à Flores, et l'âme de Flores n'existe plus. Alors en guise de conclusion, je voudrais vous dire d'abord un mot de ma grand-mère qui me disait, et ça me troublait quand même, si toi mon petit-fils tu descends du singe, moi sûrement pas. Donc ça m'a embêté parce que j'ai pas su lui répondre, en tout cas j'ai pas su la convaincre. Et je pense avoir trouvé un petit bout de la solution, mais elle est morte, ma pauvre grand-mère. J'ai fouillé avec Jean Chavagnon à Melkakonturé. Melkakonturé, c'est aussi en Éthiopie. C'est un très beau site avec des quantités de niveaux culturels qui se trouvent pas loin de 50 km d'Addis Abeba. Et là, suivez-moi, de la base au sommet des couches, les niveaux les plus inférieurs ont des restes humains des premiers hommes, Homo habilis, disons l'homme A, si vous voulez. Et avec lui, son outillage, qui était un outillage A. Tout va bien, hein? Homme A, outillage A. Bon, on passe au niveau du dessus, l'homme change, il devient B. Et l'outillage reste A. Ça qui est intéressant. La vitesse d'évolution biologique a l'air plus importante que la vitesse de l'évolution culturelle, en tout cas à ce moment-là. Alors ensuite, l'homme reste B, et la culture, ça y est, elle évolue quand même un peu, elle devient B. Donc un homme B avec une culture B, ça va. Et puis après, l'homme devient C, et la culture reste B. Donc il y a toujours ce retard de la culture qui perdure, qui persiste. Et puis ensuite, l'âme reste C, il ne change pas, mais la culture devient C. Et puis l'âme reste C, la culture devient D. Puis l'âme reste C, la culture devient E. Puis l'âme reste C, la culture devient F, etc. C'est-à-dire qu'il y a un renversement, quoi. Il y a un renversement de vitesse. Et c'est intéressant parce que c'est comme si la culture... la culture, quand même, née au moment de l'homme, née dès 3 millions d'années, enfin 2 millions 7, la culture avait évolué lentement par rapport à la nature pour finir par l'emporter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous attrapez la grippe NI, non, NR. Je trouve plus joli de l'appeler comme ça. Au lieu de mettre des 1, mettez des i, vous verrez que c'est plus agréable. Ça fait moins peur. Donc, on attrape cette grippe, on va consulter, on a une ordonnance, on va chercher les médications adéquates, on prend ces médications et ça va mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un écran de culture entre son agresseur et soi. Et ça veut dire que petit à petit est née la liberté. Que la liberté de l'homme, une certaine liberté un certain libre arbitre, et non seulement est apparue au moment de cette conscience, mais s'est développée sûrement, puisque ce retard de la culture en est un petit peu le témoignage. Et petit à petit, cette liberté a pris de l'ampleur, avec la responsabilité qui est d'ailleurs son corollaire, mais elle a pris de l'ampleur par rapport à la nature, c'est tout à fait clair. Alors ma grand-mère n'avait pas tort, ce qu'elle voulait ma grand-mère c'est conserver sa dignité à l'homme, le fait de descendre de l'animal et en plus du singe l'embêtait beaucoup, donc elle n'avait pas tort et finalement on voit le passage de cet animal strictement naturel à cet homme en grande partie naturel mais de plus en plus culturel qui se fait dans le sens évidemment de la reconnaissance de notre liberté, de notre responsabilité et de notre dignité d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous raconter, et je ne peux pas m'empêcher de terminer par une petite histoire que j'adore, pour vous montrer quand même, j'aurais dû raconter ça à ma grand-mère, mais je n'avais pas fait l'expérience à ce moment-là, que les petits singes méritent aussi notre salut et notre estime. Un jour avec Jean-Jacques Péter était un biologiste, directeur du zoo de Vincennes à Paris, il est mort. On a eu l'idée de faire une expérience banale, pour s'assurer de l'intelligence des chimpanzés. Ce n'était pas très nécessaire, mais enfin, ça nous amusait. Alors l'expérience est classique. On met des bananes au plafond que le chimpanzé ne peut pas atteindre. Et puis on met une table dans un coin, une chaise dans un coin, et première réflexion, si le chimpanzé a l'idée de mettre la table, c'est-à-dire quelque chose, premier degré, il monte sur la table, il ne peut pas atteindre les bananes. Mais s'il a l'idée au deuxième degré de tirer, la table sur les bananes, prendre une chaise, mettre la chaise sur la table, monter sur la table, monter sur la chaise, il peut attraper les bananes. Donc deuxième degré de pensée. Donc on teste. On accroche des bananes, c'était à Paris. On fait entrer une table, une chaise, on fait entrer un chimpanzé. Et comme on est mal équipé, c'est pas du tout une simple expérience. Je dis à Jean-Jacques, regarde ce qui se passe. Il regarde pas entre la serrure, avec ça. Donc il regarde pas entre la serrure, puis il me dit, il voit rien du tout. Bon, juste pas possible. On a ouvert les volets, on a tiré la clé, non, c'est pas possible. Regarde encore, il regarde et dit, oh, c'est pas ce que j'ai vu, l'œil du chimpanzé. Merci. C'est bien, j'adore ça.
Pour vous aider, ce qui me contrarie dans le métier de recherche que l'on fait, et quand je dis contrarie, c'est que je suis extrêmement content que la science a fait ce saut extraordinaire ces deux, trois dernières décennies, de se mettre dans un rapport avec la dimension temps qui est de plus en plus précise et précieuse. Quand vous nous avez expliqué les transformations morphologiques, que ce soit le cerveau ou l'appareil digestif, dans le rapport que Hominidé avait eu avec l'environnement, l'échelle de temps, c'est... Est-ce qu'on a une idée de l'échelle de temps? Certes, vous avez parlé de strates, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'être relativement précis sur les transformations morphologiques? Là, pour revenir un peu à ce que vous avez toujours eu envie de traiter avec les biologistes et les généticiens, quelles sont les modalités de l'évolution?
La notion de temps, malheureusement pas, mais ce que l'on est en train de réaliser, c'est que ces transformations que l'on voulait, un petit peu comme le disait Darwin, lentes à l'échelle de la transformation naturelle, paraît parfois être beaucoup plus rapide qu'on l'a imaginé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques milliers d'années quand même. Mais par exemple, la transformation de la taille dans les îles de la Méditerranée, mais aussi les îles de l'Indonésie, paraît avoir été réalisé par ces animaux de manière rapide, je veux dire quelques milliers d'années. Et il est certain que lorsque se répand une hétérochromie, quand j'ai parlé d'urgence tout à l'heure, ça peut vouloir dire quelque chose comme ça. Mais il me semble qu'en ce moment, on est en train de comprendre que parfois les transformations se font vite, peuvent se faire très très vite. Et le décryptage des mécanismes, grâce à vous, hein, parce que la paléontologie, elle voit les choses à une certaine dimension, à la fois du temps et de l'organisme aussi, n'a pas la finesse de cette approche. Elle ne peut que constater à grands pas ce qui s'est passé. Et vous parliez de l'estomac, c'est intéressant, hein, parce que toute l'histoire des primates, c'est ça. Les primates, ce sont des insectivores qui, il y a 70 millions d'années, se sont adaptés aux angiospermes, c'est-à-dire aux plantes à fleurs, c'est-à-dire aux plantes à fruits, et à l'arboriculisme d'ailleurs en même temps, et se sont mis à manger du fruit. Donc ce sont des insectivores qui se sont mis à manger, en plus des insectes, des fruits. Et puis, il y a 10 millions d'années, en plus des insectes et des fruits, à terre, avec le redressement du corps, ils se sont mis à manger des racines. Et puis, il y a 3 millions d'années, en plus des insectes, des fruits, des racines, ils se sont mis à manger de la viande. Et puis, il y a 700 000 ans, au lieu de manger tout ça cru, ils se sont mis à manger certains des éléments cuits. Et puis, il y a 10 000 ans, ils se sont mis à produire tout ça, c'est-à-dire à le manger aussi de manière un petit peu différente, puisque stocké dans des silos ou stocké sur pâte, si je puis dire. Donc l'histoire de la physiologie, aussi de la digestion, n'a jamais été abordée, mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est forcément liée à cette alimentation qui, elle, a été simplement une histoire d'opportunisme dans la nécessité d'une adaptation.
La suite, dans la cuisine, se prépare rapidement dans le hall d'entrée.
Oui, est-ce que ce phénomène de rapetissement des tailles, notamment, n'est pas lié au fait que les échanges génétiques se sont faits dans des espaces fermés, insulaires, s'agisse-t-il de montagnes, de vallées, etc. Et donc, ne peut-on pas les traduire par ce qu'on appelle vulgairement une certaine dégénérescence?
Ça ne paraît pas. Ceci dit, que la population soit devenue petite et que la population et eu des échanges réduits dans la variabilité, oui, c'est certain. Le fait de se retrouver comme ça consigné, vous savez, la dégénérescence, elle est due au fait que dans une petite population, les éléments qu'on appelait populairement les tares, évidemment, sont susceptibles de réapparaître plus volontiers. Mais ce n'est pas forcément cela, mais en tout cas, il y a un certain nombre de caractères qui ne sont pas dominants et qui ont plus de chances de se trouver à réapparaître dans une petite société où le choix des partenaires est évidemment très, très limité. Mais je crois que ça se rapporte à chaque fois à l'homozygosie. Et quand on étudie ces animaux, quand on étudie ce bonhomme de Flores, on ne voit pas de ce que l'on peut appeler dégénérescence. Hein. Pas pour parler. C'est très, très répandu. Hein. Toutes les îles. Les îles, je vous ai parlé de la Méditerranée, je vous ai parlé de l'Indonésie, mais les Philippines, les îles du Japon, les îles des Antilles. Les Galapagos, à plus forte raison, même les îles du nord de la Sibérie, la Wrangel et autres, les derniers mammouths y ont survécu jusqu'il y a moins de 3000 ans, moins de 3000 années. L'ensemble des mammouths a subi le changement climatique il y a 10 000 ans et a disparu à ce moment-là, mais sur les îles, qui sont à la fois créatrices avec cette histoire d'isolement et en même temps conservatrices,
des mammouths ont perduré jusqu'à 2000 et quelques années, c'est-à-dire quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. J'enrage de ne pas les avoir croisés.
On se rappellera aussi qu'il a suffi d'une guerre pour que la taille de la population hollandaise maori diminue visiblement. Donc ça peut aller très vite.
Ça peut être rapide.
Et sans que ce soit endémique. Bien, la suite, parce qu'après je ne donne plus la parole.